Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre et auteur de Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire. Et si vous voulez lui poser des questions à partir de 8h30, vous vous inscrivez au 0826-300-300.
Oui, et je sais qu'il y a déjà des appels. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Patrick Roger.
Quelles sont les valeurs de la République? Votre regard sur Éric Zemmour, la campagne, la gauche, Mélenchon, Macron, la droite, autant de sujets que nous allons évoquer. Quel programme? Bien sûr, mais bon, nous avons le temps puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Alors commençons quand même par l'actualité. Jean Castex a annoncé hier un calendrier de levée progressive des restrictions, fin du masque en extérieur, fin du télétravail, et puis ensuite réouverture des discothèques et la possibilité de boire son café debout. Quel miracle, hein, quand même, dans un café. Ça vous paraît raisonnable, ça, ou pas?
Tous les autres pays sont en train d'évoluer dans le même sens. Reconnaissons que tous les gouvernements confrontés aux différentes vagues, aux différents variants, et donc à Omicron, tâtonnent et pilotent forcément à vue et adaptent leur stratégie. Il y a 3 semaines, nous étions submergés par un tsunami, je reprends les mots du ministère de la Santé, et aujourd'hui on envisage la sortie parce qu'on voit bien que Omicron, même s'il est plus contagieux, évidemment, n'a pas les mêmes effets négatifs que d'autres vagues. Donc il faut s'adapter. Et puis, je pense que nos sociétés ont besoin, cette sortie du tunnel, de retrouver progressivement, si cela est possible, s'il n'y a pas d'autres variants, s'il n'y a pas d'autres vagues, de retrouver une vie plus normale. Et puis sortir parfois de ce qui est un peu l'absurdité. Nous sourions il y a un instant quand on parlait de pouvoir prendre un café debout.
Debout, bah oui, bien sûr.
Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut rester vigilant, notamment vis-à-vis de la situation de nos hôpitaux, surtout vis-à-vis des plus âgés, des plus fragiles de notre société, et continuer à cette campagne pour contraindre, convaincre bien sûr d'abord, mais contraindre aussi ceux qui ne sont pas vaccinés, pour eux-mêmes et bien sûr pour les autres, à se faire vacciner.
Oui, Emmanuel Valls, il y a le passe vaccinal qui pose encore problème pour certains. Il va être examiné par le Conseil constitutionnel aujourd'hui, il pourrait être appliqué la semaine prochaine. Est-ce que vous y êtes plutôt favorable tel qu'il est présenté là, ou est-ce que vous émettez un certain nombre de réserves?
Non, moi j'étais d'abord favorable, je sais que c'est difficile, mais je pense que c'était la bonne voie, je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, j'étais favorable la vaccination obligatoire, parce qu'au fond, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Et vaccination obligatoire pour tout le monde ou pour certaines catégories de la population?
Non, mais pour tout le monde. Ou tout le monde, parce que le problème, c'est pas uniquement de protéger les gens d'eux-mêmes, de les protéger, mais c'est aussi de protéger tous les autres à cause de la contagion possible. Et puis, on voit bien que pour un certain nombre de personnes, ça va être difficile aujourd'hui de vivre si on a déjà avec le passe sanitaire, il y a toute une série d'activités qu'on ne peut pas réaliser, mais avec le passe vaccinal, évidemment, on passe à une nouvelle étape. Donc j'y suis favorable. Mais il faudra l'adapter aussi.
Oui,
il faudra l'adapter, le Premier ministre d'ailleurs l'a
dit. Parce que ça n'empêche pas la contamination, quand
d'abord,
même.
Ça n'empêche pas la contamination, et sans doute, reconnaissons-le, le passe vaccinal était adapté aux variants passé.
Oui.
Mais il peut être aussi adaptable, c'est pour ça que je fais preuve de prudence, parce qu'on ne sait pas, à une nouvelle vague ou à un virus qui serait de nouveau plus létal, non seulement plus contagieux, mais plus dangereux. Donc, il faut avoir les outils pour s'adapter, il faut faire preuve de souplesse et d'intelligence. Je pense que les Français en sont d'accord dans leur immense majorité.
Oui, sans être cynique, Manuel Valls, est-ce qu'il y a un risque d'utilisation en fait de cette crise du Covid et puis même du pass vaccinal dans la campagne en fait actuelle? Et là, je parle en fait, je pense à l'exécutif beaucoup plus, quoi.
Peut-être, mais reconnaissons, bon, il y a les éditorialistes, ceux qui analysent la campagne, un jour peuvent dire que le pouvoir utilise cette pandémie à ses fins, parce que ça l'arrange, pour empêcher le débat sur d'autres sujets, je mets des guillemets, pour faire preuve d'autorité, pour démontrer qu'il agit. Et puis on voit bien que, par exemple, sur la question de l'école, les choses peuvent mal se passer, donc les mêmes analystes, les mêmes éditorialistes nous expliquent que c'est une mauvaise façon.
C'est un peu comme l'Europe, là aussi, hier, quoi, ou avant-hier, où finalement le président de la République, bah oui, il a la présidence européenne, et puis il se fait interpeller au Parlement européen à Strasbourg, quoi.
Je pense qu'on oublie que les Français sont très intelligents. C'est un peuple très politique, et je vais le dire d'une autre manière, les Français décryptent très bien l'actualité politique. Ils le savent, grâce à vous, mais il y a une multiplication de chaînes, de radios, il y a les réseaux sociaux, ils décryptent eux-mêmes cette information. Donc, je suis convaincu que l'élection présidentielle, pour eux, va se faire sur un certain nombre de sujets qui les intéressent, bien sûr, le pouvoir d'achat, l'avenir du pays, un sentiment de crainte, de peur par rapport
on
à
va
l'avenir,
voir ça, dans votre
les
livre,
questions économiques, oui. Les problèmes migratoires, les questions de sécurité, et puis au fond, quel est notre destin collectif et comment pouvons-nous nous réconcilier avec nous-mêmes, apaiser peut-être cette société qui est davantage crispée que d'autres, tout simplement parce que tout remonte au sommet, tout remonte au président de la République, donc les gens, les Français savent bien que cette élection est toujours déterminante par rapport à l'avenir.
Oui, alors Manuel Valls, justement, avant de voir en détail votre livre, hein, Zemmour, l'anti-républicain, là, tout à l'heure, et de voir sa vision de l'histoire que vous décryptez, hein, vous dites qu'il la manipule en quelque sorte, est-ce que vous allez vous engager là, pour la campagne électorale, vous, plus directement, en faveur de quelqu'un ou d'un parti ?
Je ne sais pas, là je m'engage, d'ailleurs, à ma manière, à travers ce livre.
Oui,
je m'engage en contre, critiquant
oui,
contre Éric Zemmour,
mais
aussi
contre les extrêmes, l'extrême gauche aussi, quoi.
Oui,
hein, puisque vous
toujours,
le dites.
Puisque c'est ma continuité. Certains disent vous ne parlez pas assez de la gauche. Oui, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Ouais. Et j'ai dit ce que j'en pensais il y a encore quelques semaines dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche.
Ouais.
Mais dans la deuxième partie du livre, je parle tout simplement de la nécessité d'une union nationale, d'une union sacrée, là c'est mon côté clémenciste qui revient, ma référence à Georges Clemenceau, pour bien me faire comprendre par vos auditeurs, et sur la nécessité d'un véritable compromis historique. Pourquoi ? Parce que quel que soit le président ou la présidente de la République élu, l'aura été au mieux avec entre 17 et 23% au premier tour. Il bénéficiera peut-être d'une majorité à l'Assemblée nationale, mais d'une Assemblée nationale qui a perdu beaucoup de sa légitimité, avec une abstention très puissante. Donc de toute façon, pour régler un certain nombre de dossiers, une mesure d'âge jamais facile pour les retraites, des investissements massifs et nécessaires pour maintenir les centrales nucléaires, les prolonger et construire de nouvelles centrales nucléaires, alors que le consensus sur ce sujet a plutôt tendance à s'ébrécher, pour mettre en œuvre une nouvelle politique d'immigration totalement différente et qui nécessite donc aussi une tension, rapport de force, une discussion avec...
On voit que, par exemple, c'est le titre du Figaro ce matin, l'immigration a fortement progressé en France en 2021.
Oui, mais reconnaissons que depuis, ce que dit d'ailleurs le Figaro ce matin, le journal Le Monde aussi, donc si les deux le disent, c'est que ça va finir par être vrai, c'est que ça fait 30 ans qu'on mène à peu près, au-delà des discours et des coups de menton, les mêmes politiques migratoires. Donc on voit bien qu'il faut des changements dans le temps et avec de la cohérence. Donc moi je plaide non pas pour un gouvernement d'union nationale, je plaide que les forces politiques de la majorité de l'opposition, avec aussi les partenaires sociaux, avec les élus, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui n'ont pas été très bien traités ces dernières années, on trouve, pas surtout, parce qu'il faut faire vivre le débat politique, bien évidemment, mais des accords. Donc, cette élection présidentielle, il ne faut pas que ce soit de nouveau une élection présidentielle pour rien.
Oui.
Il faut qu'il y ait... qu'on réponde...
Avec François Hollande, c'était pour rien, alors. Quoi. Et Nicolas Sarkozy, c'était pour rien.
Pour résoudre la crise politique. En effet, elle s'est aggravée ces dernières années. Et s'il y a un échec d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir réconcilié les Français avec eux-mêmes et avec la politique. Je reconnais que c'est difficile, c'est très difficile. Donc, on ne peut pas gouverner seul. Moi, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, c'est à la fois la recomposition des droites et de l'autre côté, le risque du président, du chef de l'État, de la présidente, peu importe, seul face au peuple. Et on peut être élu, on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale et puis assister à une crispation. On a eu les gilets jaunes au cours de ce quinquennat. À une crispation et une violence qui me paraît à terme et même à court terme dangereuse pour la démocratie.
Manuel Valls, vous dites, l'immigration, on ne l'a pas réglée là, depuis 30 ans, 40 ans. Vous donnez finalement raison à Éric Zemmour qui en fait son cheval de bataille.
Mais je donne raison à tous ceux qui considèrent qu'il faut un changement de politique.
Et donc c'est ce qu'il dit
non,
en fait.
On peut traiter ces questions. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde va s'y engager. Ouais. Regardez ce que dit Valérie Pécresse. Examinons ce que disait Emmanuel Macron dans son discours devant...
D'ailleurs, pour Valérie Pécresse, certains disent, en observant son programme, que c'est plus extrême qu'Éric Zemmour.
Mais on peut avoir une autre politique d'immigration. Mmh. Bref, on peut dire, il faut préserver le droit d'asile, ouais. c'est un droit fondamental. Ouais. Mais les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits à la frontière. Ceux qui sont sur notre sol et qui ont épuisé tous les recours et qui sont en situation irrégulière, il faut les reconduire à la frontière. Parce que sinon, ça donne un sentiment d'impuissance. Mmh. Il faut accueillir des étudiants étrangers, parce que c'est, je crois, le rôle de la France que de former les élites du monde. Il y a des abus, eh bien on les traite. Ouais. Dizaines de milliers d'étudiants étrangers qui viennent dans notre pays le font parce qu'ils savent que nous avons de grandes universités et de grandes écoles. Écoutez, on va inaugurer cette semaine, c'est moi qui l'ai voulu, le nouveau campus de Sciences Po, qui va être un campus à Paris, un campus international, qui montre que nous sommes capables de former les élites du monde. On peut avoir une discussion, remettre à plat le regroupement familial, cette immigration qui passe par les mariages. On doit d'abord, et c'est le grand sujet bien sûr, protéger davantage, fermement, en donnant plus de moyens aux pays concernés, c'est-à-dire les pays de la Méditerranée, et des moyens supplémentaires à Frontex. Donc on doit pouvoir protéger nos frontières européennes, on doit pouvoir traiter les demandes d'asile dans des hotspots, dans des points d'entrée, dans les pays concernés des deux côtés de la Méditerranée, tout en respectant l'état de droit et les valeurs humaines, et sans expliquer et que tous les immigrés sont des délinquants ou que nous allons être submergés par le grand emplacement. Donc c'est ma grande différence avec Éric Zemmour, ça porte sur les valeurs et sur le fait qu'on n'instrumentalise pas l'immigration à des fins politiques. Donc moi, ce que dit Valérie Pécresse me va, et je suis convaincu que ce que devra dire Emmanuel Macron pour un changement de politique quand il parle de la révision de Frontex va dans ce sens. Donc
vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron de nouveau demain, comme vous pourriez travailler avec Valérie Pécresse.
Et moi, ce que je pense, c'est qu'ils doivent travailler ensemble, à terme. Donc, à terme, parce que cette question-là doit être réglée, parce qu'elle empoisonne la vie politique, et parce qu'elle fait de chaque immigré, de chaque étranger, une cible en puissance. C'est pas ce que je souhaite. Ouais. C'est quand même une différence fondamentale. Mais après...
Est-ce qu'il faut travailler aussi avec Éric Zemmour et avec Marine Le Pen, qui représente quand même aussi 35% des électeurs, en tout cas dans les intentions de vote. Donc ce sont des Français.
Ils se nourrissent, mais bien évidemment. Ouais. Ils se nourrissent l'un et l'autre des erreurs, des impuissances de ceux qui ont gouverné. Et moi, je veux convaincre ceux et celles qui votent pour les extrêmes qu'eux, ils les amènent dans une impasse parce que de toute façon, ils ne veulent pas gouverner. Ils veulent seulement exploiter les problèmes, les craintes et les peurs des Français. Il faut écouter les électeurs. Mais en revanche, moi, je combats toujours ceux qui manipulent l'histoire, ceux qui mentent, ceux qui utilisent les problèmes des Français, encore une fois, à des fins politiques, qui nous expliquent que...
C'est une manipulation de l'histoire.
Ce n'est pas seulement une controverse historique, ça me pourrait m'intéresser.
Sur Pétain, les Juifs,
mais quand vous expliquez que le capitaine Dreyfus n'était pas innocent, que Pétain et De Gaulle, c'était la même chose, et que si Pétain a déporté...
C'est un raccourci, là aussi, que vous faites, quoi.
Non. Quand il explique que le maréchal Pétain protégeait les Français juifs en déportant les Juifs étrangers, tout ça, c'est une manipulation. Ça ne tient pas, évidemment, la route. Ça n'est pas une controverse, c'est un mensonge. Pourquoi il le fait ? Pas par le goût de l'histoire, que nous pouvons tous partager, mais parce qu'il met et cette affaire Dreyfus et Pétain dans un même mouvement. Pétain, c'est la revanche, notamment des anti-Dreyfusards, et c'est évidemment un projet profondément anti-républicain. Pas antidémocratique, me dit, il est républicain. Mais non, il dit lui-même, d'ailleurs, moi je veux pas un coup d'État, heureusement, mais il s'inscrit dans un courant qui est le courant maurassien, un courant celui de Charles Maurras, un courant profondément anti-républicain, et donc il n'est pas dans ses valeurs qui sont celles de la République, et c'est pour ça que je le combats, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai débattu avec lui. Je ne le traite pas de fasciste, je ne le traite pas d'imbécile, je ne le disqualifie pas, ou alors si je le disqualifie, c'est sur le fond et sur les propositions.
Oui, c'est ça, donc c'est une exploitation, en fait une manipulation de l'histoire, c'est ce que vous dites. Alors que si on s'arrête...
Au service d'un projet politique, quel est ce projet politique? C'est lui qui considère que Le Pen, à cause du nom, à cause de son père, de leur patronyme, des origines vichistes et OS du Front National, ne peut pas gagner, en se basant notamment sur le mauvais résultat du Rassemblement National aux dernières élections régionales. Et lui veut, parce qu'il ne vient pas de cette famille politique, il veut réunir toutes les droites, faire sauter la digue qui existe entre la droite et l'extrême droite depuis la Libération, et fermement tenue notamment par Jacques Chirac. Et il met donc ce projet, sous la bannière, d'ailleurs en général, de la haine ou de rejet de l'étranger et du musulman, il veut réunir ses droites. Il est là son projet politique, d'où cette manipulation de l'histoire. Oui, c'est donc, ça qui m'intéresse.
Donc ce n'est pas forcément une ambition présidentielle, Éric Zemmour?
Je pense que si on l'écoute, si on le lit, oui. Et beaucoup de Français l'ont fait ces dernières années, la réunion des droites, il l'avait exprimé dans un discours devant une convention de la droite il y a trois ans, c'est ça ce projet. Après, peut-être que l'appétit vient en mangeant. Son projet,
oui,
c'était...
Oui, prépare pour quelqu'un d'autre.
Son projet, peut-être. Son projet, en tout cas, c'était de dépasser Le Pen, pour le moment, il ne l'a pas réussi, oui. Et de détruire les Républicains, il n'y est pas encore. Mais ses idées... C'est-à-dire le grand placement, hein, ouais. qui est une thèse de Renaud Camus, un intellectuel ouais. parmi d'autres Français, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les papiers, par exemple, du terroriste qui a tué 80 musulmans ouais. dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Tu sais, une thèse qu'au fond, derrière, il y aura une organisation voulue pour remplacer
Il y a ceux qui disent qu'il y a une théorie, effectivement, de grand remplacement qui est voulue, et puis il y a d'autres qui disent qu'il y a un grand remplacement qui se fait mécaniquement aussi,
oui,
parce
oui, d'ailleurs,
qu'il y a l'immigration.
Éric Zemmour, de manière très scientifique, je souris, je mets des guillemets, dit sortez dans la rue, allez dans le métro et vous verrez que ce grand placement est en cours. Faisons attention à cela, c'est des sujets
vous
lourds.
Vous dites vous-même aussi dans certains quartiers, quand vous dites par exemple,
autre chose.
Ou dans certains départements, le prénom Mohamed,
autre chose.
Par exemple,
d'ailleurs,
en Seine-Saint-Denis.
Dans les chiffres sur l'immigration qui sont sortis hier, je crois que c'était dans le journal Le Monde que je citais, on voit bien les cartes. Et que montrent les cartes? C'est que les politiques d'habitat, les politiques de peuplement ont amené depuis des années, enfin tout le monde le sait, je n'invente rien, j'avais moi-même parlé d'apartheid territorial, social, ethnique et religieux, dans les mêmes quartiers. Ouais. C'est pour ça qu'il faut remettre à plat les politiques migratoires et notamment la question du regroupement familial et se poser d'ailleurs la question, est-ce qu'on a besoin de nouveaux immigrés? Non. Et si on a besoin d'immigrés pour un certain nombre de secteurs économiques, alors il faut des quotas. Je le propose depuis des années, des gens aussi dangereux et aussi d'extrême droite que Julien Drey ou Malek Bouty l'ont proposé aussi. Mais pour cela, il faut des évolutions constitutionnelles. Bon, donc, et d'autres disent la même chose. Donc bon sang, plutôt que d'utiliser les uns ce thème-là à des fins politiques, ou même Anne Hidalgo expliquer qu'il faudrait de nouveau imposer le droit de vote des résidents étrangers non communautaires. Là, il faut une évolution constitutionnelle. Personne n'en veut et c'est agité de nouveau un drapeau rouge, un chiffon rouge, pardon, c'est le rouge du studio qui me fait fourcher la langue et qui agite donc de nouveau un chiffon rouge. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Moi, je pense que quand on regarde les programmes, sur le fond, en restant sur nos valeurs, en respectant les gens, on peut avancer ensemble.
Allez,
les Français nous le demandent.
On continue dans un instant ensemble, juste après une petite pause, la revue de presse, et puis vous restez là et vous pouvez appeler 0826 300 300. On parlera, vous l'avez évoqué, de la gauche notamment. À tout de suite.
8h33, à tout de suite.